Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis, nous sommes attentifs à la présence de Dieu et d'une présence qui nous est d'autant plus nécessaire que nous avons vécu dans le confinement et donc dans une certaine limite de relation. Mais la tendresse, nous en avons besoin et nous essayons de la vivre, de la donner, de la transmettre. Et nous étions en train de lire quelques mémoires apocryphes de David, notamment sur son amitié avec Jonathan. Jonathan qui veut dire en hébreu, je vous rappelle, Dieu donné, don de Dieu, donné par Dieu. Et il dit encore dans ses mémoires apocryphes, David, maintenant dans cette chambre royale, il était vieux, donc il ne bougeait plus beaucoup, il était maintenant avant sa mort, maintenant dans cette chambre royale, d'où je ne sortirai que pour être somptueusement expédié chez mes pères, je veux te faire à toi, Jonathan, donc, dans tes palais d'absolu, parce qu'il est mort, un autre aveu. Je mens lorsque je déclare que la sublime indifférence par laquelle je suis dominé depuis l'irruption en moi du sens non-temps, non-espace, cet état de non-désir, il est vieux, donc qu'occupe le désir de toi, transforme en curieuse résonance inoffensive des noms jusqu'à hier, armes blessantes. Saül, Jonathan, Absalom, etc. Du moins, en ce qui concerne Jonathan, je mens, car le souvenir de cet après-midi de pluie, à côté de lui, dans un silence reflétant la soudure de nos âmes, aïe, je m'adresse à toi, imperturbable dans tes palais d'absolu, que sont ces larmes qui mouillent mes joues? Qu'est-ce que c'est que cette passion qui m'engage en entier? En entier, non pas David qui est encore convoite, et me force à tendre mes vieilles mains pour voir s'il est là, et que je puisse l'effleurer. Alors, c'est une très belle page qui montre vraiment ce que c'est que la tendresse délicate, pure et forte, et qui est comme le fruit précieux de tout amour. Et c'est cette poignante douleur de David à l'annonce de la mort de Jonathan, qui était son alter ego, son autre soi-même, peut nous remettre à l'esprit, chers amis, de la douleur poignante d'Achille, à qui Antiloque raconte la fin de son ami Patrocle. Je vous ramène à vos souvenirs, et vous en avez sans doute, de Homère et de l'Iliade de Homère. J'ai lu quand j'avais une quinzaine d'années, j'ai lu d'une traite lors d'une grippe qui n'était pas trop offensive à la maison, dont j'avais, je vous dis, 13, entre 13 et 15 ans, je pense, et bien dorlotée par maman. Et donc, dans des journées qui étaient paisibles, j'en garde un très bon souvenir. J'ai lu d'une traite l'Iliade de Homère. Et j'en reste encore marqué par cette poésie forte, virile, qui transparaît de ce livre. Et voilà donc la nouvelle qui est apportée à Achille de la mort de son ami Patrocle. Fils du sage Pélée, hélas, tu vas apprendre une affreuse nouvelle. Un malheur qui jamais n'aurait dû se produire. Patrocle gît au sol. On se bat pour son corps dépouillé de ses armes. Ses armes, c'est Hector, au casque étincelant qui s'en est emparé. L'ennemi dans la guerre de Troie, vous savez. Il dit, et le chagrin de son nuage noir vite enveloppe Achille. Prenant à pleine main la cendre du foyer, il en souille sa tête et son charmant visage. On jette de la cendre, c'est un signe de deuil dans l'Ancien Testament aussi. Sa tunique divine en est toute noircie. Puis il s'étend de tout son long dans la poussière. De ses mains, il salit ses cheveux, les arrache. Les captives, butin d'Achille et de Patrocle, le cœur plein de chagrin, poussent des cris perçants. Accourant au dehors, Elles vont entourer le valeureux Achille et toutes de leurs mains se frappent la poitrine. Chacune sent fléchir sous elle ses genoux. Antiloque, de son côté, gémit et pleure. Il tient les mains d'Achille, dont le cœur glorieux se gonfle de sanglots. Il craint qu'avec le fer, le héros tout à coup ne se tranche la gorge. Et tandis que le héros sanglote lourdement, sa noble mère approche, et poussant une plainte aiguë, elle saisit le front de son enfant, puis dit en gémissant ces paroles ailées : « Mon fils, pourquoi ces pleurs ? Quel est donc le chagrin qui pénètre ton âme ? Parle, ne cache rien. Tes vœux sont accomplis par le vouloir de Zeus, les vœux que tu formais en demandant les bras vers le ciel étendu, que tous les Achéens, refoulés près des nefs, souffrant de maux affreux, eussent besoin de toi. » Avec de lourds sanglots, Achille, aux pieds légers, en réponse lui dit : « Oui, ma mère, il est vrai. Mes vœux par l'Olympien se trouvent accomplis. Mais quel plaisir ai-je alors que mon ami Patrocle est mort, celui de tous mes compagnons que j'estimais le plus, comme un autre moi-même, c'est lui que j'ai perdu. Que je meure à l'instant, puisqu'il m'est refusé de pouvoir arracher à la mort mon ami. Il est tombé loin de chez lui, sans recevoir en face du malheur aucun secours de moi. Maintenant donc, allons, puisque dans mon pays je ne reviendrai pas, puisque je n'ai pas su même faire briller la lueur du salut pour Patrocle, ni pour mes autres compagnons, tous ceux que m'a tués le divin preux Hector. Puisque, auprès de mes nefs, je reste de la terre inutile fardeau, moi qui pourtant n'ai point mon pareil à la guerre parmi les Achéens de bronze cuirassé. » Au conseil, il est vrai, plusieurs me valent bien. Ah, que chez les humains comme parmi les dieux s'éteigne cet esprit de lutte et de colère qui pousse le plus sage à se mettre en fureur et qui semble plus doux que le miel au palais, alors que d'un mortel il emplit la poitrine ainsi qu'une fumée.